de l'invité politique avec Serge Simineau, votre invité ce matin, Serge et Nathalie Arthaud.
Oui, Jamel. Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Porte-parole de Lutte ouvrière, mais aussi candidate aux européennes. Et ce week-end, c'est la grande fête annuelle de Lutte ouvrière dans le Val d'Oise. Mais tout d'abord, l'actualité nous emmène bien évidemment en Nouvelle-Calédonie. Avant de revenir sur la réforme constitutionnelle qui fait débat, un mot sur l'aspect sécuritaire. Il fallait installer l'état d'urgence, selon vous?
Moi, ça me révolte. On a un gouvernement qui a voulu passer en force hein, sur cette loi qui étend le corps électoral. Il le savait contre l'avis de la population kanak, des indépendantistes, etc. Et là, maintenant, il fait jouer les blindés. Mais combien y aura-t-il de morts avec tout ça? Donc non, moi, ça me révolte.
Alors, bien évidemment, vous trouvez que je pose peut-être la question à l'envers, mais pour autant, le point de départ, c'est est-ce qu'on pouvait accepter que tout le monde ne vote pas en Nouvelle-Calédonie? Vous pensez que cette partie politique n'a jamais été réglée, qu'on donne une réponse sécuritaire avant vraiment de se poser la question politique?
Bien sûr, moi je pense que cette politique est dans la continuité de la politique coloniale. Voilà, tout simplement, c'est une façon, vous savez, de dire aux Kanaks, ben vous n'existez plus, voilà, on vous raye de la carte. Demain, les décisions seront prises par les Blancs à 17 000 kilomètres. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, la Nouvelle-Calédonie n'est française que parce qu'il y a 170 ans, les troupes coloniales y ont débarqué, ont massacré les Kanaks, les ont spoliés de leurs meilleures terres. C'est ça la réalité. Et depuis 170 ans, finalement, on a un État français qui s'évertue à rendre minoritaires les Kanaks dans leur propre pays. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc cette révolte-là, bien sûr qu'elle s'imposait quelque part, hein, par ce gouvernement qui, finalement, veut mettre le dernier clou à cette politique qui est scandaleuse. Moi, ce qui me frappe...
Mais vous contestez l'idée qu'est engagé depuis, on va dire, 1988, avec les accords de Matignon et d'Unma, un long processus de décolonisation. Est-ce que vous considérez que ce n'est pas un processus de décolonisation?
Oui, je pense que ça a été une façon, d'ailleurs, de jouer la montre hein, et de retarder les échéances pour empêcher que cette décision puisse être prise.
Il fallait retrouver une paix civile malgré tout à l'époque.
Oui, mais la décision, moi je pense que l'avenir de la Kanakie doit être décidé par le peuple kanak.
Mais de quelle manière justement?
C'est à lui.
C'est la question centrale.
Pas...
Trois référendums, dont un boycotté, on sait pour quelle raison.
Et c'est sûrement pas en le noyant. Et c'est sûrement pas en ayant cette politique-là de le rendre minoritaire. Hein, dans son propre pays. Moi, vous savez,
vous pensez que le dégel du corps électoral va faire disparaître la Kanakie, comme vous le dites, ou est-ce que c'était logique qu'on rééquilibre un peu ce vote?
C'est exactement le but. C'est exactement le but du gouvernement. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il se moque autant du sort des Kanaks que du sort des Caldoches, hein, en réalité. Parce que là, il est en train de créer une situation de guerre civile.
Et moi, vous voulez dire que le gouvernement se moque globalement de la Nouvelle-Calédonie?
Non. Justement, par contre, il joue une communauté comme une autre, contre une autre, il joue un peuple contre un autre, parce qu'il veut conserver sa suprématie. Lui, ce qui compte, hein, pour lui, c'est qu'il y ait en effet ce petit bout d'État français dans l'océan Pacifique, hein, de façon...
Stratégique.
Oui, c'est stratégique pour lui. Ouais. Alors, il y a le nickel, il y a un certain nombre d'intérêts, mais c'est aussi l'intérêt politique de s'inviter quelque part dans la cour des grands, entre la Chine, les États-Unis, etc., etc. Mais pour disposer de cette influence-là, eh bien, oui, il est en train de piéger, finalement, toute la population de Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, pour moi, vous savez, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui se passe aujourd'hui en Palestine ou à ce qui se passe même en Ukraine. C'est toujours pareil, c'est un ordre impérialiste qui, pour son influence, pour ses intérêts économiques, pose des bombes à retardement. Pourquoi? Parce qu'il oppose des peuples les uns aux autres.
On va en parler justement.
Donc, on a effectivement cette situation-là. Et moi, ma conviction, c'est qu'au-delà du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il va falloir renverser tout cet ordre social impérialiste où finalement il n'y en a que pour la domination des pays riches sur les pays pauvres. Alors, comme il y en a que pour la domination des plus riches sur les travailleurs.
Ça ne nous dit pas comment en sortir. On verra comment la crise déjà ça a l'air un peu plus calme. On verra ce que propose le gouvernement. On n'est pas loin d'une impasse à l'instant où on se parle. Mais on va parler, bien sûr, des européennes, puisque vous l'avez évoqué en parlant de l'Ukraine. Vous dites clairement, ces élections européennes, ça n'intéresse personne, ça ne règle à rien. Ça ne peut pas régler l'Europe, justement, le conflit ukrainien. Pour vous, vous renvoyez parfois dos à dos l'Ukraine, la Russie et l'Europe, d'une certaine manière.
D'abord, moi, ce que j'observe, c'est que tous les dirigeants européens sont va-t-en-guerre. Alors, on a Emmanuel Macron, là, qui se voit parfaitement en chef de guerre, en grand chef de guerre, hein, voilà. Ils sont tous va-t-en-guerre, mais on va où, là? On va où? Moi, ce que j'observe, en effet, c'est que dans cette guerre en Ukraine, s'ils sont aussi actifs, hein, et je parle là des États-Unis, mais aussi des États européens, c'est parce que précisément, eux aussi, ils veulent défendre leurs intérêts. Vous savez, l'Ukraine n'est pas seulement la proie de la Russie, elle est aussi la proie des capitalistes, des financiers occidentaux.
Mais dans ce conflit, vous appelez à quoi? À la paix, au cessez-le-feu? Est-ce que la paix, ce n'est pas donner raison à Vladimir Poutine?
Moi, je suis convaincue que la porte de sortie viendra d'une révolte des peuples en Russie et en Ukraine contre leurs dirigeants.
La révolte des peuples en Russie, oui. Ça a l'air compliqué.
Mais la révolte des peuples en Russie, vous savez, c'est déjà arrivé, compris en pleine guerre mondiale.
Et j'imagine à quoi vous alliez faire référence.
Oui. Et c'est cela qui a mis fin à la guerre. Mais moi, je suis convaincue que, si vous voulez, avec ces rivalités économiques incessantes entre le camp impérialiste occidental, la Russie d'un côté, mais aussi la Chine, on n'en finira pas avec les guerres. En fait, on n'en finira pas. Hein. Peut-être que oui, au bout du compte, ils arriveront à faire la paix à un moment donné, ici, dans cette région-là, et puis il y aura une autre guerre qui va se déclencher. Vous avez vu quand même comment tous les États sont en train de se réarmer jusqu'aux dents. Aujourd'hui, l'arsenal militaire qui est en train d'être produit, d'être accumulé...
Pour vous, on est plus dans l'escalade que dans la désescalade que prônent certains?
Mais complètement. Tous les records de budget militaire ont été explosés là, dans tous les pays. Donc, vous savez, même ici en France, hein, alors on n'aura pas de lits d'hôpitaux, il manquera des écoles, il manquera des logements, mais par contre, on va en avoir des missiles, hein, on va en avoir des rafales. C'est ça la situation aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez, comme Emmanuel Macron, par exemple, que la seule issue, c'est la défaite de Vladimir Poutine?
La seule issue, c'est le renversement de cet ordre impérialiste, où il y a en effet des fauteurs de guerre en Russie, en Chine avec Xi Jinping, mais les fauteurs de guerre aussi aux États-Unis, aussi dans les États européens. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Gaza? Ils sont où, les fauteurs de guerre à Gaza? C'est une évidence qu'aujourd'hui, on a les États-Unis qui couvrent aujourd'hui ce massacre, hein, perpétré par Netanyahou. Donc oui, les fauteurs de guerre sont aussi chez nous. Ce sont aussi nos dirigeants, avec leur volonté d'imposer eux aussi leur suprématie. Et c'est comme cela que marche tout le système capitaliste. Et c'est pour ça que nous sommes des communistes, nous sommes des révolutionnaires. Nous pensons que c'est un ordre social qui est à changer de fond en comble.
Alors, ma dernière question, vous dites régulièrement que les élections, ça ne sert à rien, mais vous êtes candidate pour le dire et aussi pour faire entendre la voix des trotskistes et luttes ouvrières. Est-ce que vous porterez ce message comme quoi les élections ne servent à rien aussi en 2027?
Je ne dis pas que les élections ne servent à rien, je dis qu'elles servent à s'exprimer, qu'à s'exprimer. C'est ça la différence.
Provoque, vous le savez bien.
Qu'à s'exprimer. Et je pense qu'en effet, quand on nous donne la possibilité de le faire, il faut prendre la parole pour justement dénoncer tout ce système qui ne fonctionne que pour une privilégiée de plus riches et que pour que les pays les plus riches dominent le reste du monde. Donc il faut dénoncer ce système. Il faut dénoncer à la fois la condition, le sort des travailleurs, toutes les attaques qui sont vécues. Et vous savez, à l'échelle du monde, à l'échelle de l'Europe, hein, nous, de ce point de vue-là, on pense que les frontières, d'ailleurs, ce ne sont pas les frontières des États, c'est les classes sociales, les véritables frontières. C'est est-ce qu'on est riche, est-ce qu'on est pauvre? À quelle classe sociale on appartient? C'est ça, véritablement, qui fait la différence. Donc, nous disons que les travailleurs, ils doivent se battre pour leurs intérêts, contre la rapacité patronale, contre l'exploitation, mais ils doivent aussi se battre pour changer tout cet ordre social. Notre conviction, c'est que les travailleurs, vous savez, ils la font tourner, la société. Ils savent très bien la faire tourner. Eh bien, ils sauront beaucoup mieux la diriger qu'aujourd'hui, cette grande bourgeoisie qui domine le monde entier.
Je vous remercie, Nathalie Arthaud.
Merci.
Merci beaucoup, Serge, et merci à votre invitée, Nathalie Arthaud, d'avoir été avec nous dans la matinale de France Info.